C'est la famille de plantes à fleurs qui compte le plus grand nombre d'espèces sur notre planète. Une plante à fleurs sur 12 est en effet une orchidée avec plus de 30 000 espèces recensées. 100 000 hybrides créés par l'homme, les orchidées sont utilisées comme plantes décoratives ou à des fins plus pratiques comme avec la vanille. Ces fleurs suscitent depuis très longtemps une véritable fascination sur les hommes et c'est le dossier cet après-midi de la Tête au Carré pour découvrir à la fois l'histoire étonnante des chasseurs d'orchidées et puis les particularités botaniques de cette plante. Pour en parler, je suis avec Catherine Vadon et Jean-Yves Dubuisson. Bonjour.
Bonjour
à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Catherine Vadon, vous êtes maître de conférences et conseiller scientifique auprès de la Grande Galerie de l'Évolution au Muséum National d'Histoire Naturelle et vous publiez Orchidées du bout du monde, c'est aux éditions de la Martinière, un ouvrage donc qui raconte les expériences de ces explorateurs d'orchidées qui ont traversé les océans, qui ont bravé tous les dangers à la recherche donc des plus belles fleurs. Jean-Yves Dubuisson, vous êtes botaniste, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, spécialiste en botanique évolutive et diversité des plantes. Vous êtes le directeur adjoint de l'Institut CNRS de systématique évolution biodiversité au Muséum. Et on va donc se retrouver tous ensemble dans un instant pour évoquer cette fleur chère à Marcel Proust et avec les auditeurs qui nous rejoignent avec les questions et les messages sur franceinter.fr et sur les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Un nouveau quiz scientifique avec Florence Porcel et deux nouveaux candidats pour terminer l'émission. Céline Hila réalise cette nouvelle Tête au Carré qui a été préparée par Louis Chevillard.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Mais pour commencer, comme tous les mardis, le jour du docteur Dupagne. Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Quelle actualité médicale a retenu votre attention cette semaine ?
Eh bien, il s'agit d'une interview du professeur Didier Sicard, qui a présidé le Comité consultatif national d'éthique pendant 10 ans, bien connu de la Tête au Carré. Cette interview, publiée dimanche sur Rue 89, porte un titre choc. Sur diagnostic, il faut apprendre à se méfier de la médecine. C'est Didier Sicard qui parle.
Mais oui, pourquoi se méfier d'une science qui sauve a priori quand même des vies tous les jours ?
Écoutez, peut-être parce qu'elle va parfois trop loin, surtout en matière de dépistage. Ces excès ont été résumés par Aldous Huxley dans une phrase « La médecine a fait tellement de progrès que plus personne n'est en bonne santé ». Actuellement, l'excès d'examens complémentaires et certains dépistages intempestifs aboutissent à la création de maladies qui n'existent pas. Ouais. La médecine affirme qu'elle a découvert un cancer de la prostate, du sein, du rein ou de la thyroïde et fait subir aux malades un traitement aussi lourd qu'injustifié. Injustifié car la petite lésion découverte lors d'un dépistage n'aurait en fait jamais évolué vers une maladie. On parle alors de surdiagnostic. Et ce n'est pas nouveau, j'en ai déjà parlé ici, et des auteurs anglo-saxons prestigieux l'expliquent depuis longtemps. Mais en France, les voix dissonantes sont rares. Certes, nous avons eu Molière et surtout Jules Romain.
Tombé malade, vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot qu'il n'y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide.
En tout cas, c'est une très belle théorie.
Voilà, et nos auditeurs auront bien sûr reconnu le célèbre docteur Knock Dominique hein, dans une pièce de 1922.
Hein, oui. Presque un siècle. Mais depuis, le consensus va plutôt vers le principe de précaution, le dépistage triomphant. Or, Didier Sicard rappelle que la médecine préventive réside surtout dans la modification de nos comportements vis-à-vis du tabac, de l'alcool ou de la sexualité. Le dépistage des maladies est utile dans certains cas, mais le principe de précaution poussé à l'extrême peut conduire à des désastres. En fait, être persuadé que tous les dépistages sont utiles par principe, c'est un peu comme croire que tous les ministres payent leurs impôts. Un minimum de discernement est nécessaire.
Pas le rapport.
Didier Sicard rappelle beaucoup de choses très importantes dans cette interview. Le diagnostic de nos symptômes ne réside pas forcément dans des analyses ou des scanners. Les gens qui inventent des machines médicales ont intérêt à les faire fonctionner, ce qui peut expliquer la pression médiatique sur certaines stratégies qui sont pourtant critiquables. Et enfin, Didier Sicard suggère à l'assurance maladie de s'intéresser à la légitimité des examens qu'elle rembourse. Il déplore également que le médecin qui prescrit des examens en 2 minutes reçoive la même rémunération que celui qui passe une demi-heure à discuter avec son patient pour essayer de comprendre pourquoi il va mal. Tout cela paraît pétri de bon sens, mais ça fait du bien de l'entendre dans la bouche d'un grand nom de la médecine française. En fait, je suggère à nos auditeurs de lire l'intégralité de l'interview de Didier Sicard sur Rue 89, en lien sur le site de France Inter. Ils pourront peut-être, comme le suggère Didier Sicard, devenir plus sereins, apprendre à se méfier des médecins et à ne pas leur confier aveuglément leur destin.
Et c'est un médecin qui nous le dit.
Exactement.
Voilà, merci beaucoup Dominique Dupagne. On se retrouve la semaine prochaine. Chronique, bien sûr, à réécouter sur franceinter.fr.
so kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind.
Urge Overkill à l'instant sur France Inter. Petit souvenir de la bande originale de Pulp Fiction.
Mathieu Vidard.
Ce qu'il lui faut, c'est un peu de chaleur humaine.
Jusqu'à 15h.
Je m'en occupe.
Sur France Inter.
Et un dossier consacré à l'une des plus grandes familles du règne végétal, celle des orchidées. Pour en parler, Catherine Vadon est avec nous. Elle publie « Orchidées du bout du monde » aux éditions de La Martinière et le botaniste Jean-Yves Dubuisson. Toutes vos questions et vos messages dès maintenant sur franceinter.fr et sur les réseaux avec le mot-clé « L'attaque ». Alors pourquoi faire une émission sur les orchidées, un dossier entier ? Parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, qui suscite beaucoup d'intérêt, voire de la fascination, et ça depuis très longtemps. C'est un petit peu ce que vous racontez justement, Catherine Vadon, dans ce livre. Comment vous expliquez justement cette passion de beaucoup de gens, je crois qu'on en connaît tous autour de nous, qui adorent les orchidées et qui les bichonnent avec un amour absolument sidérant?
Ah oui, ça c'est vraiment l'amour des orchidées avec un grand A, ça, ouais. C'est vraiment, c'est tout à fait réel, certainement par déjà la fleur qui est tout à fait exceptionnelle dans le monde botanique, par leur couleur aussi exceptionnelle, leur parfum quelquefois, certaines des orchidées sentent le chocolat, c'est quand même incroyable, et certainement cette histoire, cette longue histoire de la découverte des orchidées épiphytes et toute l'aventure et toute tout l'imaginaire qui est lié à cette fleur.
Ouais, mais Jean-Yves Dubuisson, qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette fleur ? Parce que quand même, on a l'impression que ce rapport avec l'orchidée, on le trouve dans aucune autre fleur, quasiment. Vous-même d'ailleurs, en tant que botaniste, vous êtes un passionné et un collectionneur. Pourquoi vous les aimez tant ?
Alors, bonne question. C'est... Comment est-ce qu'on est passionné par quelque chose ? Bon, moi, je suis botaniste, donc déjà, je suis passionné par toutes les plantes. Et je reconnais que chez l'orchidée, il y a cet aspect d'une... Bon, pas toutes les espèces, mais la grande majorité des espèces que l'on cultive et que l'on présente au grand public sont des plantes avec des grandes fleurs, très colorées, ou des coloris un peu particuliers, des parfums aussi, toutes sortes de parfums. Ça, c'est étonnant. Effectivement, les orchidées qui sentent le chocolat, effectivement. Ouais. Il y a aussi des orchidées qui sentent les agrumes.
Et d'autres choses moins agréables aussi.
Hein. Et des choses moins agréables.
Il y a une gamme vraiment olfactive.
Il y a tous les parfums possibles. Ouais. Donc c'est ça, c'est une diversité de formes, de couleurs, Et c'est une fleur qui est très spécialisée, qui a une sorte de mariage très étroit, très approfondi avec le pollinisateur, qui est donc l'animal qui va transporter le grain de pollen. Et c'est ça qui est fascinant, c'est comment ces plantes se spécialisent autant, et on les trouve partout, en fait. On croit que ce sont des plantes rares, oui, elles sont rares à trouver, mais en fait, on les trouve partout, ce que raconte Catherine. Donc, c'est cette diversité, le fait qu'elles sont partout et qu'elles ont des fleurs sublimes. Ouais. Mais bon, ça, c'est peut-être subjectif quand je dis qu'elles sont sublimes.
Mais pourquoi vous les collectionnez, vous, justement ? C'est pour cette variété, pour ces beautés singulières ?
Pourquoi est-ce qu'on collectionne ? On collectionne des choses qui sont rares, que tout le monde n'a pas forcément, qui ne sont pas faciles à cultiver. Donc, c'est un peu le challenge de faire fleurir. Comme on dit, parfois, il faut cultiver plusieurs années une orchidée pour la faire fleurir. Et donc, et on a une fleur qui va durer quelques jours, quelques semaines.
C'est ça qui est un petit peu embêtant, d'ailleurs, avec l'orchidée, qui fait souvent râler ceux qui ne sont pas spécialement portés sur l'orchidée. C'est qu'il faut attendre très longtemps d'avoir une fleur. Et puis ensuite, on est avec des feuilles vertes comme ça, une partie de l'année. C'est très agaçant.
Parfois, pas longtemps. Il faut de nouveau attendre des années pour la voir refleurir.
Et on a un tuteur au milieu d'un pot avec deux feuilles vertes. Exactement. Et on attend que ça fleurisse, évidemment. Jean-Yves Dubuisson.
Ben, c'est ça, c'est le côté rare, le côté extraordinaire, le côté inattendu de certaines fleurs. Moi, j'ai une certaine fierté quand j'arrive à faire fleurir des orchidées qui sortent un peu de l'ordinaire, de les montrer à mon entourage.
Quelles sont celles alors que vous aimez tout particulièrement ? Alors, dites-nous.
Alors, moi, il y a beaucoup de modes chez les orchidées. Il y a des modes. Moi, j'ai commencé par les orchidées classiques qu'on appelle les phalaenopsis, qui sont les orchidées qu'on trouve chez tous les fleuristes, dans toutes les jardineries. Et puis après, on essaye de faire des choses plus compliquées. Donc là, je suis plutôt dans les Cattleya, donc qui est l'orchidée emblématique, celle de Marcel Proust. Et qui est une orchidée difficile à tenir, à faire fleurir si on n'a pas de serre, ce qui est mon cas.
Ouais. Et cette orchidée, d'ailleurs, qui est symbole d'amour, Catherine Vadon. Il y a beaucoup de codes aussi derrière cette fleur.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment une fleur à code avec un imaginaire qui peut être complètement délirant. Ouais. Certains y voient une sensualité particulière dans cette fleur d'orchidée par rapport à la forme de la fleur elle-même. Ouais. Et donc, je pense que pendant la grande période de l'orchidomania dont on va parler, cette forme particulière était fascinante.
Alors justement, tout à l'heure, parce qu'il faut quand même expliquer pourquoi on parlait de testicules au tout début de l'émission, c'est que l'étymologie d'orchidée, ce sont les testicules, justement. Voilà, pense au sexe féminin avec cette fleur, mais en réalité...
Voilà, les orchidées terrestres, celles que l'on trouve en particulier en France, métropolitaines, elles sont terrestres, elles ont en fait deux bulbes souterrains. Ouais. Et en grec, orchis, qui veut dire testicule, donc le nom de la plante a été donné par allusion donc à ces bulbes, d'où le nom d'orchidée.
Les courriels des auditeurs, Gilles nous dit ceci. Combien justement y a-t-il d'orchidées en France ? Est-ce qu'il y en a ? Oui, il y en a.
Oui, il y en a.
Il y en a beaucoup. Ouais.
Des terrestres surtout.
Oui. Des terrestres qu'il faut aller chercher parce qu'on ne les trouve pas discrètes. Partout.
Alors c'est ça, ce sont des petites orchidées celles que nous avons en France.
Il peut y avoir des très grandes orchidées.
Ah bon ?
Mais il faut les connaître. Donc il faut... Parce qu'elles poussent dans des milieux bien particuliers, souvent des pelouses calcaires, dans des endroits qui sont bien ensoleillés, dans les zones humides qui sont des milieux qui sont en récession en France. Et on peut en trouver à Paris. Il y a des orchidées sauvages à Paris, bien sûr.
Et où est-ce qu'on peut les
trouver ? Dans certains parcs et jardins.
Donc il faut avoir une
loupe.
Dans
les fossés aux Invalides.
Ah oui ?
Oui, bien sûr. J'ai même trouvé une orchidée sur le campus de Jussieu, un épipactis, qui a disparu depuis. Donc c'est assez étonnant, on peut en trouver là où on ne s'attend pas à les trouver, justement.
Voilà, et elles ont en plus des formes extraordinaires, puisqu'elles simulent en fait un insecte, pour beaucoup. Les orchis, c'est l'orchis apifera, qui ressemble en tout point en fait, à une abeille ou à un bourdon. Et de façon à attirer le pollinisateur et en fait le tromper quelque part.
Ouais. Et Tom nous dit ceci sur Twitter, la vanille provient bien d'une orchidée. Alors oui, vous nous le confirmez. Il me semble, dit-il, qu'elle a été importée à Madagascar, mais en l'absence de l'insecte pollinisateur, il a fallu recourir à la fécondation manuelle.
Manuelle, tout à
fait. C'est vrai ça ?
Absolument. Absolument, ouais. Et c'était un travail absolument considérable de féconder chaque fleur manuellement.
Ouais.
C'est tout à fait vrai.
Jean-Yves Dubuisson,
tout à fait.
Sur la vanille.
Les meilleures vanilles sont paraît-il, les vanilles malgaches. Mais bon, les Réunionnais vont râler en disant que ce sont les leurs qui sont les meilleures. Et puis les Mauriciens.
Et ils ont raison, elles sont excellentes aussi, bien sûr.
Aussi. Ouais. Et en fait, comme la fleur de la vanille que l'on cultive, en particulier à la Réunion, ne fleurit qu'une journée. L'éleveur ou le cultivateur de vanille doit passer tous les jours, surveiller la fleur et arriver au bon moment pour faire la pollinisation manuelle. C'est pour ça que c'est un produit qui est rare et cher.
Ouais. Et quel était l'insecte pollinisateur, en tout cas, de celle de Madagascar au départ?
Alors, c'est un insecte sud-américain. Alors, là, j'ai un petit trou, donc ça doit être un si ce n'est pas... Alors, généralement, les pollinisateurs des orchidées, s'ils ne sont pas des bourdons ou des abeilles, ce sont souvent des papillons.
D'accord. Bon. Catherine Vadon, en Asie, par exemple, c'est ce que vous racontez, l'orchidée est considérée comme une plante mythique, mais depuis très très longtemps,
depuis
en fait.
Depuis très longtemps, mais oui, tout à fait. En fait, cette fascination pour les orchidées, elle se retrouve dans la Chine, en Chine antique. Déjà 2800 ans avant Jésus-Christ, on a des traces de cet attrait de l'orchidée. L'orchidée, en Asie, étant évidemment recherchée en médecine, dans la poésie, pour les arts, tout ce qui est calligraphie, etc. On sait que les samouraïs avaient une passion pour une petite orchidée, épiphyte blanche qui sent très très bon. Et c'était devenu leur fleur fétiche. Ouais. Les shoguns, ensuite, en particulier vers le XVIIIe siècle, avaient également cette fleur fétiche. Et elle valait extrêmement cher. Et le shogun conviait sa cour de temps en temps pour qu'ils viennent voir cette orchidée. On leur mettait à chacun un masque pour que leur haleine, leur souffle ne détériore pas l'orchidée.
Et alors donc, les vertus médicinales aussi de l'orchidée ont intéressé à une certaine époque la Chine, aujourd'hui en fait. Hein, on n'utilise plus du tout cette plante.
Alors là, dans la médecine chinoise d'aujourd'hui, est-ce qu'on utilise encore les orchidées? Là, je ne saurais pas le dire.
En tout cas, c'est vrai qu'à cette époque, il y avait une place très importante, donc à la fois effectivement en horticulture, en médecine, en littérature, en peinture, en poésie.
Absolument.
Il y avait ces orchidées qui inspiraient beaucoup, beaucoup de monde. L'orchidée semble s'être démocratisée, dit Frédéric. Et quelles en sont les raisons? Est-ce que c'est plus facile à cultiver?
Alors, il y a la révolution, c'est la culture in vitro, c'est-à-dire la capacité de multiplier les plantes
donc,
de façon contrôlée, voilà, tout à fait. Et puis, et ça a commencé surtout parce qu'on a pu également maîtriser la germination des orchidées. Naturellement, les orchidées, pour germer, ont besoin d'un champignon. On avait des graines minuscules qui n'ont pas de réserve, et donc l'embryon, pour se développer, finalement, se fait envahir par un champignon qui lui procure les sucres qui permet à l'embryon de se développer. Et donc, si vous voulez semer des orchidées dans un pot, si vous n'avez pas le champignon, ce qui est fortement aléatoire, rien ne se passe et il y a une très grosse mortalité des graines. Et donc ça a été étudié au début du XXe siècle, ça a été formalisé et développé au cours du XXe siècle. Maintenant, on peut faire germer très facilement des graines d'orchidées sur des milieux enrichis en sucre.
Ah bon.
Et c'est ce que font les producteurs.
À la place des champignons?
À la place des champignons, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de germination qu'on appelle symbiotique, on fait de la germination asymbiotique, et ce qui permet de faire germer très facilement les orchidées, de les cultiver in vitro, de les multiplier in vitro. Et en gros, maintenant, les producteurs asiatiques et surtout néerlandais sont des champions de la production d'orchidées. Et en les boostant, les orchidées, avec les bons engrais, par exemple un Phalaenopsis qui devrait mettre 3, 4, 5 ans pour fleurir, maintenant les Néerlandais arrivent à faire fleurir en quelques mois une orchidée. Donc de la germination.
Et ça joue sur la durée de vie aussi de la fleur ou pas? Le fait de les booster, d'accélérer le processus de développement?
Non. C'est la durée de vie d'une fleur d'orchidée est liée à l'espèce et à l'hybride.
Ouais.
Les orchidées qui ont les fleurs qui durent le plus longtemps sont les Phalaenopsis, les plus connus, les Cymbidium. Un Cattleya, pourtant, qui sont les plus recherchés, c'est 2-3 semaines. Alors, c'est beaucoup pour une fleur,
mais
à l'échelle de certaines orchidées, c'est pas beaucoup. Et vous avez des orchidées que certains orchidophiles cultivent où les fleurs durent une journée.
Donc, on a passé outre la symbiose entre le champignon et l'orchidée, donc dans le milieu naturel,
tout à fait,
pour inventer d'autres techniques pour faire fleurir cette
plante. Voilà, en fait, le champignon aide la plante, produit des sucres à la plante. Si vous donnez vous-même les sucres que le champignon ne produit plus.
Ça permet de se passer du champignon.
Tout à fait, voilà.
Catherine Vadon.
Oui, et cette méconnaissance du secret de germination, qu'il va falloir attendre avec Noël Bernard tout début du XXe siècle, ça a été la raison de l'existence des chasseurs d'orchidées. Puisqu'on arrivait quand même à avoir en Europe un certain nombre de plantes tropicales, d'orchidées tropicales, mais on ne savait pas les reproduire.
Ouais.
Et donc on divisait les mottes, parce que par multiplication végétative, on arrivait à refaire quand même des orchidées, mais on ne savait pas comment les reproduire. Donc il fallait envoyer des aventuriers, des chasseurs, des collecteurs dans le monde entier pour aller les chercher.
Alors ça a été vraiment le début d'un développement absolument hallucinant autour de ces plantes et des hommes qui vraiment ont pris tous les risques pour les orchidées.
Tous les risques. Il faut savoir que c'est les orchidées épiphytes qui étaient tellement convoitées par les collectionneurs. Donc les épiphytes prennent comme support des arbres ou des embranchements, des branches d'arbres.
Les épiphytes, on les trouve plutôt dans les climats tropicaux.
Voilà. Hein. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, ça a été un mystère de savoir comment ces épiphytes pouvaient vivre. Et les premiers voyageurs naturalistes qui, aux Antilles en particulier, ont vu au XVIIe siècle ces plantes, pensaient qu'elles étaient parasites. Parce que de les voir pousser sur des arbres, bien évidemment, ils faisaient la comparaison avec ce qu'ils connaissaient ici en Europe, à savoir le gui.
Oui.
Et donc, la plante poussait sur un arbre, donc elle était parasite. Et ça a été un frein à la culture des orchidées pendant des décennies et des décennies.
Oui.
Jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait, l'épiphyte, elle se nourrit, elle récupère par ses racines extérieures de l'eau de pluie, de l'eau de ruissellement, mmh. et des éléments minéraux qu'elle capte avec ses racines.
Ouais.
Et donc, pendant très très longtemps, on n'a pas su comment les maintenir en serre, et donc ça a été une véritable hécatombe.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu beaucoup de casses, évidemment.
Il y a eu beaucoup de casses, parce qu'on les rapportait donc, de ce qu'on appelait les zones torrides. Et pour les horticulteurs, zone torride voulait dire jungle. Qu'est-ce qu'on faisait quand l'orchidée épiphyte arrivait en serre? On chauffait au maximum, on ombrait.
Et c'était la grave erreur commise.
Et on n'aérait pas du tout, on ne ventilait pas. Ouais. Et donc les orchidées mouraient évidemment à tour de bras.
Jean-Yves Dubuisson, sur ces pratiques justement.
Oui, tout à fait. Alors un des grands descripteurs d'orchidées, c'est Lindley, au début du 19e siècle, qui a dédié d'ailleurs sa première description de Cattleya à son maître, Cattley, qui était son chef botaniste. Et en fait, lui aussi, il décrivait les orchidées, enfin celles qui survivaient, mais il n'arrivait pas à les cultiver. Et il a contribué à l'hécatombe en disant, il faut les cultiver dans les tuves.
Ouais.
Et les gens qui ont commencé à réfléchir et à dire, on va peut-être essayer de les reproduire et de les cultiver plus facilement sous les hautes latitudes, ce sont des jardiniers un peu malins, en particulier Joseph Paxton, qui est le jardinier en chef du duc de Devonshire, la deuxième moitié du 19e siècle, a testé des modes de culture en faisant de la ventilation, en faisant varier les températures.
Et ça a bien fonctionné.
On est déjà assez tard dans l'histoire de l'arrivée des orchidées.
Il faut vraiment... Il y a eu des succès au cours du 19e siècle, la seconde moitié du 19e siècle, avec les premiers ouvrages de culture d'orchidées, donc le Gardner's Chronicle qui publiait des fiches de culture. Mais on tâtonnait, et il faut quand même attendre le XXe siècle pour que...
Oui. Et les Anglais très à la pointe, Catherine Vadon, dans ce domaine.
C'est un sujet essentiellement anglais, belge aussi, un peu moins français.
Tout à fait, mais tout a été, en gros, développé, la culture des orchidées a été développée dans la deuxième moitié du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle par les Anglais, peu les Belges et quelques Français.
Voilà, des orchidées épiphytes arrivaient à Kew, bien sûr, depuis les quatre coins de l'Empire colonial britannique. Et à partir de 1730, on a les premiers signes déjà de culture d'orchidées à Kew. Mais là, encore une fois, ça a été un tâtonnement pendant très très longtemps. Et c'est vrai que c'était les chasseurs et les naturalistes de terrain qui, peu à peu, ont expliqué aux horticulteurs et aux scientifiques dans quelles conditions se développaient les orchidées.
Un message d'Alain qui nous écrit de La Réunion, rappelant, dit-il, que c'est Edmond Albus, un esclave, qui a découvert la fécondation manuelle de la vanille. C'est important de donner son nom à l'antenne. On retrouve dans un instant, il y a beaucoup de messages, énormément de questions pour vous sur les orchidées, franceinter.fr.
J'espère que tu seras conne comme aujourd'hui lorsque tu partiras. Pour que je ne te regrette pas, je verrai que tout ce que je ne t'ai pas dit d'irrémédiable ne s'avérait pas si sévère en vérité. Je déambule en équilibre, en préambule d'un homme libre. Mais là, je t'aime d'une main et je me fiche enfin de ce à quoi tu penses. Je sais que tu seras forte comme tu me l'as dit lorsque tu partiras. Et je ne te retiendrai pas. Mes rancœurs sont volatiles, des vapeurs d'éther dans le cimetière de mes répliques assassines. Je déambule en équilibre, en préambule d'un homme libre. Mais là, je t'aime d'une main et je me fiche enfin de ce à quoi tu penses. Je t'aime d'une main et je me fiche enfin de ce à quoi tu penses. Je t'aime d'une main et je me fiche enfin de ce à quoi tu penses. Je me fiche enfin de ce à quoi tu penses. Je t'aime d'une main et je me fiche enfin de ce à quoi tu penses.
Un homme libre, Dimonet sur France Inter.
La tête au carré sur France Inter.
Dossier consacré aux orchidées, c'est le tout premier depuis l'histoire de la tête au carré, avec mes invités Catherine Vadon qui publie Orchidées du bout du monde, c'est aux éditions de La Martinière, et à ses côtés donc le botaniste et professeur à l'université Pierre et Marie Curie, Jean-Yves Dubuisson. Vos messages très nombreux, on va essayer de répondre au maximum de questions. Est-ce qu'il existe une orchidée des neiges, demande Adrien sur franceinter.fr. À votre connaissance, Jean-Yves Dubuisson?
À ma connaissance, non. Il y a des orchidées qu'on trouve très haut en montagne, à la limite donc de l'étage nival, mais qui fleurissent quand la neige a fondu. Donc, c'est des orchidées de pelouse alpines, et il y en a. Oui, ça peut monter très haut, mais qui... Peut-être, hein. C'est une bonne question. Ce serait pas étonnant.
En tout cas, vous dites bien, Catherine Vadon, qu'effectivement, on trouve des orchidées dans les milieux même les plus inattendus.
Ah oui, jusqu'aux hautes latitudes.
Voilà, 4000 mètres, on peut trouver encore des orchidées.
Absolument. En zone tropicale ou équatoriale, jusqu'à 4000 mètres. Et très haut, en très haute latitude également.
Patricia nous dit ceci, j'écoute depuis le début de votre émission, votre dossier, je souris car j'ai des orchidées chez moi depuis 15 ans qui refleurissent systématiquement lorsqu'une fleur fane. Est-ce que j'ai de la chance? Demande Patricia.
Bravo, la main verte sûrement, parce que c'est loin d'être évident.
Je dirais la main verte, oui, parce que c'est pas facile de cultiver les orchidées, mais parfois on peut avoir le feeling, savoir ce qu'il faut faire, comment
les apprivoiser. C'est un cas un peu exceptionnel quand même, apparemment.
Non, pas si exceptionnel que ça, parce que les... comme les orchidées se démocratisent, qu'il y en a de plus en plus dans les jardineries, les gens s'y intéressent de plus en plus, il y a plein de forums, donc il y a plein d'aides, mais c'est facile finalement d'avoir l'information pour bien les cultiver.
Larry demande quand même pourquoi les orchidées restent si chères aujourd'hui. Alors, ce n'est pas les prix de l'époque que vous décrivez, Catherine Vadon.
Si cher, on arrive quand même à avoir des phalaenopsis pour des prix vraiment très très bas, hein, pour quelques euros. Donc, les prix, évidemment, par rapport à ce que a pu exister à la fin du 19e siècle, c'est évidemment très très peu, puisque c'était des fortunes que les milliardaires pouvaient engloutir, et quelquefois en se ruinant jusqu'au dernier sou.
Ouais. Jean-Yves Dubuisson, vous me donniez un exemple tout à l'heure, je crois que c'est justement après Marcel Proust avec les Cattleya, c'est ça ?
Alors il y a des variétés, des clones de Cattleya, donc au début du XXe siècle, qui se négociaient, si on fait l'équivalent avec l'argent actuel, à plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Ouais.
Une plante.
Ouais. Et Catherine Vadon, on pouvait se ruiner littéralement pour des orchidées.
On pouvait se ruiner puisque l'orchidée, en fait, était devenue un symbole de richesse, de prestige, de haute société. Et donc, il y avait une sorte de surenchère entre collectionneurs qui, pendant les ventes aux enchères, en particulier à Londres, montaient les enchères, mais jusqu'à la folie.
Ouais.
Et ils étaient deux ou trois à combattre pour avoir vraiment l'orchidée. Quelquefois, ils allaient même jusqu'à acheter un bulbe sans fleurs.
Avant même l'éclosion, voilà, c'est ça.
Et donc, ils prenaient le risque.
Il y avait des paris, mais ça, c'est les Anglais.
Voilà, hein. Et ils investissaient, en fait, c'était un investissement. Et ils prenaient le risque d'avoir une fleur tout à fait modeste ou bien quelque chose de magnifique.
Ouais. Donc, ça devient aussi un symbole de réussite sociale. C'est-à-dire, quand on a son orchidée, c'est qu'on a beaucoup d'argent.
Beaucoup d'argent. Et les soirées qui étaient données dans la haute bourgeoisie en Angleterre ou en Belgique ou même en France, c'était absolument extraordinaire. Les murs étaient décorés d'orchidées, les tables également, les femmes avaient des orchidées sur elles. C'était vraiment un éblouissement que ces fêtes. Et les grands collectionneurs aussi se battaient au niveau des expositions internationales d'horticulture. Et là aussi, c'était à qui aurait le plus beau spécimen décrit avec force de qualificatifs les plus sensationnels.
Alors évidemment, aujourd'hui, il y a des règlements drastiques liés au commerce du vivant. Donc on ne peut pas aller chasser les orchidées comme à cette époque, celles que vous décrivez. Mais il y a encore quelques affaires fameuses. Jean-Yves Dubuisson, début des années 2000 au Pérou, je crois. C'est un collectionneur américain.
Alors, en gros, c'est un chasseur d'orchidées, parce qu'il y a encore des chasseurs d'orchidées qui, de façon plus ou moins légale, vont aller découvrir des nouvelles espèces. Et donc, un certain Kovacs, au Pérou, a trouvé un sabot de Vénus sud-américain extraordinaire, une fleur énorme, une couleur inattendue pour le genre. Il s'empressait de sortir la plante illégalement du Pérou, de la revendre, on n'a pas su le prix, à un producteur américain qui l'a distribuée et qui l'a décrit. Et quand la description a été faite, les Péruviens ont hurlé en disant « Attendez, ça vient de chez nous, il n'y a pas eu les autorisations, c'est une plante péruvienne ». Entre-temps, les Péruviens avaient également décrit la plante, mais comme la publication péruvienne était ultérieure à la publication américaine, c'est le nom américain qui a antériorité, et ça a été un scandale qui a été relayé dans les forums d'orchidophiles et tout, et... Disons, le producteur américain, il a fait un peu profil bas pendant quelques années.
C'est Phragmipedium Kovacsi.
Phragmipedium Kovacsi, et Kovacsi en hommage à Kovacs, le chasseur d'orchidées, qui, entre nous, n'aurait pas dû mériter cet hommage, vu qu'il a un peu pillé la ressource locale.
Voilà. Ces rivalités étaient très communes au XIXe siècle. Tous les coups étaient bons entre horticulteurs, pour brouiller les pistes sur le terrain, pour faire accuser par exemple certains chasseurs d'orchidées comme agitateurs politiques, pour piller certains endroits entièrement pour que, après le passage des chasseurs, il n'y ait plus un seul spécimen à récupérer. La rivalité et l'argent en jeu étaient tels qu'évidemment on arrivait à ces extrémités.
Jacques Dubuisson, cette orchidée que vous décrivez est pourtant classée en annexe 1 de la Convention de Washington, c'est-à-dire qu'on ne peut pas transporter cette fleur.
Pratiquement toutes les orchidées donc sauvages sont protégées et ne peuvent pas être récoltées dans leur milieu naturel et exportées et vendues.
Ouais.
Mais ça a été fait, ça a été donc de façon illégale. Et vous trouvez, hein, vous allez en Thaïlande sur les marchés locaux, vous avez des orchidées que vous achetez pas cher, qui j'appelle des orchidées tombées de l'arbre.
Hein, quand oui, on parle du camion.
Voilà, à défaut d'être tombées du camion, elles sont tombées de l'arbre. Il faut faire très attention, et si vous les ramenez en France, vous êtes dans l'illégalité.
Ouais. Jean-Paul nous dit ceci, l'orchidée serait une des inventions les plus récentes de la nature, du point de vue de l'évolution, car la plante est apparue le plus tard au cours de l'histoire de la vie. Alors, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça.
Non,
hein.
Je ne suis pas d'accord du tout.
Et vous avez bonne raison.
Non, en fait, on a très peu de fossiles d'orchidées, donc ce qui semblerait attester l'idée que c'est une famille qui s'est diversifiée récemment. Et donc, pendant longtemps, on a cru que c'était une famille qui s'est diversifiée il y a 15-20 millions d'années, ce qui est relativement récent par rapport à l'histoire des plantes à fleurs. Et on avait des évidences indirectes. Par exemple, on trouvait dans de l'ambre des insectes qui portaient les pollinistes, c'est-à-dire les amas de pollen d'orchidées.
Ah oui.
Et donc, on datait l'existence des orchidées
via
les insectes fossiles. Et des analyses récentes sur la base de phylogénie moléculaire calibrées avec les fossiles en question ont montré, alors c'est discuté, c'est une hypothèse, hein, que les orchidées seraient vieilles de près de 70-80 millions d'années.
Donc
c'est-à-dire que les premières orchidées
sont connues les dinosaures.
Elles ont connu les dinosaures. Voilà. Et les grands groupes modernes d'orchidées se seraient diversifiés au début du tertiaire, c'est-à-dire après 65 millions d'années. Donc c'est un groupe qui n'est pas si récent que ça, qui n'est pas plus récent que les graminées, par exemple, ou d'autres familles de plantes à fleurs.
Catherine Vadon.
Oui, non, j'ai rien dit.
Bon, c'est vrai qu'en tout cas, on lit souvent l'information, comme quoi ce serait l'une des plantes les plus récentes de l'histoire de l'évolution. Hein. Mais donc, c'est important de le préciser pour bien montrer qu'il y avait des plantes bien plus anciennes. La plus grande, la plus petite, la plus extraordinaire, demande Larry dans son message.
Plus petite, quelques millimètres, et plus grande, ça peut faire, enfin, ça peut former des boules gigantesques de plusieurs centaines de kilos, comme les grammatophyllums.
Sa florescence énorme.
Vous parliez d'une orchidée de Madagascar vers le milieu du 19e siècle. Darwin avait reçu de Madagascar cette orchidée qui s'appelle Angraecum.
Comment on le prononce ? Angraecum, oui.
C'est ça. Il avait donc reçu cette orchidée avec des grandes feuilles blanches. Il a été très étonné par la taille justement de l'éperon qui était long de 30 cm. Et donc Darwin en a déduit à l'époque qu'il devait exister à Madagascar un papillon pollinisateur avec une trompe très longue pour aller justement puiser le nectar au fond de l'éperon. Et ce papillon a été trouvé bien plus tard, en fait.
Donc les prédictions de Darwin,
il avait eu raison. C'était en 1903, je crois, qu'on a retrouvé justement cette preuve. Beaucoup d'orchidées, justement, et des photos magnifiques dans ce livre. Par exemple, cette orchidée Dracula. En regardant cette fleur assez bizarre, on voit des couleurs d'un oiseau de nuit. C'est la Belgique horticole, en 1882, qui faisait cette description.
C'est des masses d'Evalia, c'est des petites orchidées d'Amérique du Sud. Et elles avaient été effectivement appelées Dracula, mais là, on est en plein dans l'imaginaire, complètement. Et c'est des petites plantes, de petites orchidées, que le grand chasseur d'orchidées, Bénédicte Rosel, en particulier, avait rapporté en grande, grande quantité d'Amérique du Sud. Un petit mot sur Bénédicte Rosel, c'était certainement le plus grand chasseur d'orchidées, parce qu'il était né à Prague, et il était parti au Mexique pour faire du commerce de plantes. Il avait mis au point une machine pour broyer en fait les feuilles d'agave pour récupérer des fibres, et sa main gauche avait été broyée dans la machine, et donc il avait à la place de la main gauche un grand crochet de fer. C'était Capitaine Crochet. Et donc il a changé de métier et il est devenu chasseur d'orchidées. Il a vraiment sillonné l'Amérique du Sud de part en part, et j'ai eu la chance, grâce à des amis tchèques, de retrouver à Prague, aux archives nationales, des documents de la main de Rosel, enfin de la main droite,
celle qui restait,
si j'ose dire, et qui montrent bien ce corps commerce extraordinaire qui était effectué.
C'est après qu'il y a une statue, justement,
oui,
à son effigie.
Voilà,
on le voit avec une orchidée
à
la main. Hein. Carmen nous dit ceci, j'écoute votre émission. En Normandie, j'ai une pelouse pleine d'orchidées au printemps, Orchis pyramido et Ophrys mouche.
Est-ce que je prononce bien ? Oui, c'est ça, c'est l'Orchis pyramide, l'Acanthis pyramidalis, qui est très abondant, qu'on trouve un peu partout. Il y avait même des jolies populations au bord du RERD, je crois, à la gare de Hyères, pour ceux qui connaissent. Oui, c'est... Et l'Ophrys mouche, oui, c'est... Alors le frise-mouche, il est un peu plus rare, mais donc il faut qu'elle préserve sa pelouse, bon, ben voilà. Pas de souci. Hein.
Jean-Paul nous dit, est-ce que l'orchidée s'auto-fertilise? Et si oui, est-ce que ça a un effet affaiblissant pour la plante?
Il y a des orchidées qui s'auto-fécondent. Alors il y a un ophrys chez nous, qui est l'ophrys apifera, qui s'auto-féconde, mm-hmm. alors que ses cousines, les espèces proches, se font polliniser par les insectes. Et elles s'affaiblissent. Alors, le problème de l'autofécondation, c'est que ça crée de la dépression consanguinité, mais ça, c'est sûr, c'est à moins long terme. Donc, pour produire des graines à court terme et pour se reproduire, c'est pas un problème. Alors, l'autofécondation est parfois utile. Alors, il y a des Réunionnais qui écoutent l'émission, ils le savent peut-être. Il y a des orchidées de la Réunion qui proviennent généralement de Madagascar. À Madagascar, elles ont leurs pollinisateurs. À la Réunion, elles sont arrivées, mais sans les pollinisateurs.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, ce qui s'est passé, il y a deux stratégies qui ont été mises en évidence par les collègues et amis de la Réunion. La première stratégie, c'est de faire l'autofécondation, se passer du pollinisateur. Et la deuxième stratégie, c'est de capturer un autre pollinisateur. Et ils ont mis en évidence, ces collègues de la Réunion, une orchidée qui est pollinisée par les oiseaux, qui est un scoop, qui est quelque chose qui est exceptionnel, très rare, dans le monde des orchidées. Et ça a été filmé.
Là aussi, il y a des symbioses très précises avec certains insectes pour chaque espèce d'orchidée.
Alors, la relation spécifique orchidée-insecte, elle est très variable, très souple, mais il y a effectivement des études précises qui ont montré que les orchidées pouvaient être visitées par beaucoup d'insectes, mais que très souvent, il n'y a qu'un seul insecte qui pollinise concrètement l'orchidée. Ouais. Alors, j'ai lu récemment un papier que j'ai eu à évaluer sur une espèce asiatique, Spatoglottis lolote, qui effectivement, ils ont démontré que c'était pas mal visité par beaucoup d'insectes, mais qu'il y a un seul insecte pollinisé, et en fait, c'était l'insecte qui avait la bonne taille. En gros, il faut être pas trop gros pour pouvoir rentrer dans la fleur. Et il ne faut pas être trop petit, parce que vous êtes trop petit, vous ne décrochez pas les pollinies. Donc, il y a une taille un peu qui fait que, souvent, une espèce d'orchidée correspond à un insecte pollinisateur.
Catherine Vadon, les orchidées et les fourmis, hein, certains chasseurs pouvaient tomber sur les fourmis.
Et
ça, c'était pas drôle pour eux, évidemment.
Et certains naturalistes, aujourd'hui, connaissent
avec des mandibules
aussi,
fourmis terrifiants.
Des fourmis de feu qui habitent, en fait, dans les racines, entre les racines de l'orchidée. Et quand on voulait, évidemment, récupérer le paquet d'orchidées à quelques mètres de hauteur, on était littéralement dévorés par les mandibules de ces charmantes bestioles. Ouais. Et donc, c'était plus facile de couper l'arme que d'aller chercher l'orchidée à quelques mètres de hauteur.
Judith demande quel est le rôle des phéromones pour les orchidées. Est-ce que c'est pour développer l'attractivité justement
de
la fleur?
Les orchidées ne produisent pas de phéromones. Les phéromones, c'est une production animale. Par contre, comme l'a cité Catherine en début d'émission, il y a des orchidées qui attirent les abeilles mâles. Alors, en imitant la femelle au niveau du labelle, donc le pétale transformé, et produit des fragrances, des parfums, qui imitent les phéromones sexuelles. Et donc, l'insecte mâle arrive, il essaye de copuler avec l'orchidée, bien sûr. Alors, je ne sais pas s'il y prend son pied, ça n'a pas été approfondi la question. Enfin, toujours est-il que, avant de se rendre compte qu'il s'est trompé, il visite plusieurs fleurs et il pollinise la fleur.
Ouais. Catherine Adam, vous évoquez le récit d'un chasseur qui relate un parfum d'orchidée qui aurait pu enivrer, voire tuer. Est-ce que c'est fondé, cette histoire, ou pas?
Oui, je pense, de façon très locale. Alors, en Amérique du Sud, en Amazonie, avec l'humidité et la chaleur extrême, dans certaines clairières, des récits de chasseurs disent effectivement que les parfums étaient tellement entêtants qu'ils tournaient la tête, en fait, et ils donnaient des nausées. Mais bon, ça c'est vrai, c'est des phénomènes très très locaux.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans La Tête au Carré. J'invite les auditeurs à poursuivre les commentaires justement sur le site de France Inter, sur La Tête au Carré, puisqu'on peut échanger. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien comme ça poursuivre les émissions pour poser des questions, et vous pouvez le faire donc entre vous, franceinter.fr. Et puis en attendant, on peut également lire ce livre, Orchidées du bout du monde, qui paraît aux éditions de La Martinière. Merci beaucoup à tous les deux. Dans un instant, le quiz de La Tête au Carré. Son Little sur France Inter avec Cross My Heart et Jean-Michel Montu qui signe la programmation musicale de notre Tête au Carré. La Tête au Carré, le jeu, c'est le moment de retrouver nos candidats, mais tout d'abord de vous saluer, Florence Porcel. Oh,
bon, salutations à vous, Mathieu.
Bonjour, bienvenue. Avec qui jouons-nous aujourd'hui ?
Nous jouons avec Isabelle et Nathanaël. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Isabelle qui habite à Saleil, c'est ça ? Je le prononce bien, dans les Pyrénées-Orientales.
Exactement.
Qu'est-ce que vous faites, Isabelle, avec ce beau petit accent que j'entends ?
Alors, moi, je suis aide-soignante à domicile, dans une association.
D'accord. Et face à vous, donc, Nathanaël, vous habitez à Caen ?
Oui, exactement.
Vous recherchez un emploi en ce moment, c'est ça, hein ?
Oui, voilà, j'ai fait des études dans l'environnement et je suis actuellement à la recherche d'un emploi.
Dans quel secteur, exactement ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez absolument ?
J'avais fait des études en gestion et protection de la nature, mais il s'avère qu'en ce moment c'est assez compliqué, donc je suis plutôt en train d'essayer de me réorienter professionnellement.
Bon, bah en tout cas, je vous souhaite bon courage pour la suite de vos recherches. Merci. Cette semaine, on vous offre un cadeau Tête au Carré, Florence.
Bah oui, la boîte de jeux qu'on offrira aux gagnants, auquel on ajoutera le livre Safari dans la bouse aux éditions Delachaux et Niesley.
Isabelle et Nathanaël, est-ce que vous êtes prêts ? On va commencer ?
Oui.
Allez, c'est parti avec la question d'actualité. Au sujet d'un paraplégique bulgare dont vous avez beaucoup entendu parler il y a quelques jours, qui a réussi à remarcher après une transplantation inédite de cellules nerveuses. Sur quelle partie de son corps a-t-on prélevé justement des cellules ? Ah, vous êtes très rapide et vous aviez la réponse. On n'a même pas eu le temps de lancer le chrono.
Ni de terminer la question.
Le nez ! Effectivement, Isabelle, c'est une bonne réponse.
Mais oui, et ce sont plus précisément les cellules olfactives engainantes du nez qui ont permis aux cellules sectionnées de la colonne vertébrale de se reconstituer. Alors, le patient opéré il y a 2 ans par des médecins britanniques et polonais peut désormais marcher avec un déambulateur et conduire. Mais un chercheur de l'INSERM tempère l'enthousiasme de ses confrères en précisant que c'est un cas unique et qu'il faudra répéter l'opération avant de donner un véritable espoir aux paraplégiques.
Voilà, et c'est vrai que ces fameuses cellules du nez, ça nous a tous un peu surpris.
Bah oui.
Donc on l'a bien retenu, Isabelle, et c'est ce qui vous rapporte 10 points pour commencer brillamment. Attendez quand même que le chrono démarre avant qu'on puisse avoir votre réponse, mais on la valide, il n'y a pas de problème. Les questions de rapidité, nous en avons 7 bien sûr comme tous les jours, elles sont dans l'ordre croissant de difficulté, donc là aussi n'hésitez pas à nous demander de passer à la suivante si vous n'avez pas la bonne réponse, et on a 1 minute 30 pour poser ces 7 questions. On y va, le chrono est lancé. Du nom de quel astre Louis XIV avait-il été surnommé ?
Le soleil.
Le soleil, Nathanaël, bonne réponse. Quelle est la substance la plus dure de notre organisme ?
L'eau.
Non. Alors, est-ce que vous avez une autre réponse à nous donner ? On passe à la question suivante. Allez, oui. Comment s'appelle la particule découverte au CERN en 2012 ?
Le boson de Higgs.
Boson de, pardon, de ?
De Higgs.
Allez, je vous l'accorde, c'est boson de Higgs, pour être tout à fait précis. Dans quel pays a été découvert le squelette de l'Australopithèque Lucie ? On en parlait il n'y a pas longtemps avec Yves Coppens, son découvreur. Dans quel pays africain? Je vais même vous aider africain. Un tout petit peu. Vous n'avez pas la réponse?
Non.
L'Égypte?
Non. Non. Allez, on passe à la cinquième question. Quel nom est également donné au bilimbi? C'est un arbre fruitier. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non, apparemment. Allez, je vous donne la sixième question. Dans quel domaine scientifique peut-on être amené à étudier des orogènes? Orogène, qui s'écrit avec un O. Vous n'avez pas de réponse?
L'hématologie?
Non. Mmh. Allez, dernière question. Quel triste événement dans le domaine économique a eu lieu il y a 85 ans, aujourd'hui exactement? C'était un 28 octobre, donc en 1929. Comment s'appelle cet événement?
Un crash boursier, non?
Mmh, oui, mais le nom de l'événement, très célèbre. Aïe! Ah, ben on n'a pas beaucoup de réponses à notre quiz. Ça ne vous a pas beaucoup inspiré, apparemment, Isabelle et Nathanaël.
C'est vrai.
Alors, la substance la plus dure de notre organisme?
Eh bien, c'était l'émail.
L'émail dentaire.
L'émail dentaire.
Eh oui, fallait y penser. Dans quel pays a été découvert le squelette de Lucie?
En Éthiopie. Il a été découvert en 1974, exactement.
Voilà, 3,2 millions d'années pour Lucie. L'autre nom donné au bilimbi, cet arbre fruitier, il fallait le connaître.
Alors, ça, fallait le connaître. C'était un arbre à cornichons. Voilà, à cause de ses fruits qui ressemblent à de gros cornichons translucides.
Dans quel domaine scientifique peut-on être amené à étudier des orogènes?
Alors là, c'était en géologie.
Pourquoi?
Eh bien, parce que les orogènes sont des systèmes montagneux édifiés sur une portion instable de l'écorce terrestre.
Et puis cet événement donc, qui s'est déroulé le lundi 28 octobre 1929, le Black Monday.
Oui, c'était le lundi noir, effectivement, dans le krach de 29.
Voilà. On va faire le calcul des points, mais ils sont peu nombreux, j'ai l'impression, Florence.
Ils sont peu nombreux. Nathanaël a répondu à deux bonnes questions, donc ça fait 10 points. Donc ça fait 10 points en tout pour tout le monde.
Voilà, égalité pour le moment. Pour tous les deux, donc tout est possible avec le mot mystère. Isabelle, on vous a donné un mot mystère juste avant l'antenne.
Oui, parfait.
Vous avez donc 45 secondes pour le faire deviner à Nathanaël. Vous êtes prête?
Oui.
Allez, on lance le chrono, c'est parti. À vous de jouer.
Donc c'est un phénomène de perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix.
Alors ça, c'est une première définition et c'est l'inflation. Bonne réponse de Nathanaël. On avait le sens astrophysique
aussi.
On a aussi
le sens astrophysique, oui, la phase d'expansion extrêmement rapide qu'aurait connu l'univers une fraction de seconde après le Big Bang. L'inflation
voilà.
Aussi.
Nathanaël, bravo, vous marquez 10 points, c'était une bonne réponse. Et maintenant, nous allons vous écouter dans ce même exercice. C'est vous qui faites découvrir le mot mystère à Isabelle. C'est parti.
Alors, il s'agit de la zone qui fait l'interface entre la Terre et la mer. En France, elle est protégée par une loi qui porte...
Littoral.
Bravo. Bonne définition, bonne réponse. C'était effectivement le littoral. Et donc, nous marquons 10 points, ce qui nous fait une égalité parfaite.
Ce qui nous fait, voilà, un ex aequo avec 20 points chacun.
On va donc vous départager, Isabelle et Nathanaël, avec une dernière question. Le principe est simple, je vous pose cette question, vous ne devez me donner qu'une seule réponse le plus rapidement possible et c'est celui qui se rapproche le plus de la réponse qui remporte donc les cadeaux d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Voici cette question. À quelle distance de la Terre se trouve l'étoile la plus proche en kilomètres? Isabelle, votre réponse?
10 000 kilomètres.
10 000 kilomètres, c'est votre réponse. Oui. Nathanaël?
Plusieurs millions, je ne sais pas, je dirais 8 millions comme ça.
8 millions de kilomètres. Vous avez bien fait d'aller vers les millions. Alors d'abord, l'étoile qui se trouve la plus proche de la Terre, c'est notre Soleil, tout simplement.
Oui. Hein.
En nombre de kilomètres, on est bien loin de la réponse avec vos 10 000 kilomètres seulement, Isabelle. Oh là, il fallait beaucoup plus loin. Voilà, c'est 150 millions de kilomètres.
Oui, environ, 150 millions le Soleil, effectivement.
Voilà, la distance Terre-Soleil. Mais du coup, Nathanaël, c'est vous qui, avec vos 8 millions, avez malgré tout la réponse la plus proche.
Et vous remportez donc le jeu, toutes nos félicitations.
Voilà, la boîte de jeu de la tête au carré.
Elle est pour vous, voilà, aux éditions Marabout. 300 questions de science pour jouer avec vos amis ou votre famille, évidemment. Et le livre Safari dans la bouse, des éditions Delachaux et Niesley. Un petit livre très rigolo sur le caca, voilà, pour le dire autrement.
Et tous les animaux qui apprécient d'ailleurs le caca pour des raisons qu'on vous laisse découvrir, Nathanaël. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir joué.
Merci
Isabelle, bonne journée à vous. Et puis on invite les auditeurs à faire comme vous, c'est-à-dire à s'inscrire.
Oui, sur le site de l'émission franceinter.fr.
Bonne journée, merci.
Bonne journée à tous les deux.
Bonne journée.
Au revoir. Bonne journée à vous aussi.
Fabrice Drouel est entré dans ce studio pour Affaires Sensibles. Ce sera dans quelques minutes. Bonjour Fabrice.
Bonjour Mathieu.
Quel sera le thème aujourd'hui ?
Alors le thème, c'est la poche de Srebrenica et c'est cette tragédie au cœur de la guerre en Bosnie. Il avait fait 8000 morts. C'est probablement avec l'attaque du marché de Sarajevo l'épisode le plus sanglant et le plus terrible dans cette guerre anachronique qui était à nos portes, hein, qui était en plein milieu de l'Europe. Nous étions dans les années 90. Pour en
votre
parler
invité,
avec nous,
oui.
Voilà, Pierre Salignon, l'ancien coordinateur de Médecins sans frontières en ex-Yougoslavie.
Et c'est après le flash. Merci, à tout à l'heure, Fabrice.